carotte glaciaire.
Une carotte glaciaire.
C'est... Non, je vais dire une bêtise.
Moi, ça me fait penser à l'âge de glace.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, parfois même, comme aujourd'hui, ses techniques. Car on va zoomer sur un objet de haute technologie, la carotte glaciaire. Elle permet de forer la glace en profondeur et d'aller révéler les secrets de notre passé en récupérant des échantillons d'atmosphère vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années. Sauf qu'avant de planter sa carotte en s'exclamant fièrement
« Drill, baby drill !»
comme Cyril l'avait fait dans d'autres circonstances que nous ne détaillerons pas ici, le scientifique doit d'abord se rendre en Antarctique. Car c'est là-bas que la glace a le plus de choses à nous raconter. Et c'est justement ce qu'ont fait nos invités aujourd'hui, une glaciologue et un explorateur qui vont nous raconter leur mission. Une mission d'une grande intensité qui n'est pas sans rappeler celle que j'avais moi-même effectuée en Laponie, au péril de ma vie, à l'âge de 8 ans. Alors certes, nos invités ont traversé 4000 km en 80 jours en kiteski, des skis à voile, mais je ne suis pas en reste côté aventure, puisque donc à l'hiver 1990, alors que j'étais en CE2, je suis parti avec ma classe en expédition arctique en Laponie et nous avons traversé d'est en ouest ce pays en chien de traîneau. Expédition que je raconterai dans les dîners jusqu'à l'âge avancé de 22 ans, agrémentant le récit tantôt d'une rencontre avec un ours blanc que j'avais maîtrisé à main nue, tantôt d'une meute de loups que j'avais amadoué en sifflant, jusqu'au jour où, et c'est là que c'est vrai, ma mère étant présente autour de la table quand je racontais l'histoire, elle m'annonça la triste vérité. Non, l'école du centre de Ferney-Voltaire dans l'Ain n'avait pas organisé une classe de neige en Laponie. La maîtresse nous avait juste emmené découvrir la reconstitution d'un village lapon dans le Jura, à 40 km de l'école. Mon monde venait de s'écrouler. Non, je n'étais pas un intrépide aventurier.
Je n'étais jamais
allé en Laponie. Bon, en y repensant, le fait qu'on n'ait pas pris l'avion et qu'on soit allé en Laponie en car, qui plus est, en moins de 2 heures, aurait dû m'interroger. Comme quoi, c'est Manon qui avait raison. À 8 ans, j'étais déjà un peu bébête. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Vous avez raconté ça jusqu'à vos 22 ans. Vous étiez bébête jusqu'à vos 22 ans.
L'âge exact, mais j'étais adulte, oui. Et un jour, ma mère m'a dit, mais non, mais tu crois vraiment que t'es allé en Laponie? Et j'ai cru, mais c'était bien reconstitué.
On a fait
du chien de traîneau, j'étais revenu à la maison avec des poils de husky.
C'est parce qu'il s'appelle Noël. Il y a un truc, c'est ça.
Allez. On y va.
Avançons. Eddie Céveste, Mathieu Tordeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Alors Eddie, vous êtes glaciologue, Mathieu, vous êtes explorateur. Eddie, quand on vous a mis en contact avec Mathieu, il paraît qu'on vous l'a présenté ainsi.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé avec les poches bourrées de pesos, comme Chuck Norris, mais vous revenez tous les deux d'une mission incroyable, en Antarctique, sous l'égide de l'UNESCO. On va y revenir. L'objectif était de cartographier les glaces de la calotte polaire. Pour cela, vous avez utilisé des radars embarqués. Eddie, vous disiez vouloir révéler l'histoire cachée de la glace. Avez-vous réussi? C'est ce que vous allez nous raconter. On va aussi parler plus globalement de votre métier de glaciologue, des carottes glaciaires qui fournissent énormément d'informations sur notre environnement et les climats du passé. On va revenir aussi sur l'incroyable aventure humaine que vous avez vécue. Juste le temps de vous présenter justement deux explorateurs légendaires de Radio France, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
On est aussi un binôme qui évolue dans des contrées lointaines.
Oui, c'est gênant. Manon, vous repoussez vraiment toutes les limites de l'aventure. D'ailleurs, dans le petit milieu des grands explorateurs, on vous appelle la Chica Loca. La preuve, dernièrement, en partenariat avec Red Bull, votre sponsor, vous vous êtes rendue à Rouen.
Avec le gros Bershka, là.
C'était votre première ville de moins de 150 000 habitants. Vous y avez survécu 6 heures en apnée. Vous avez même fait des selfies avec certains autochtones. Vos fans pourront découvrir tout ça dans votre incroyable documentaire Kaizen à Rouen, mon Everest à moi. Clin d'œil à votre ami Inoxtag.
Bien sûr.
En attendant, petite pièce jointe.
Oui, je vais vous présenter un documentaire. Il a été réalisé par un acteur français qu'on connaît bien, notamment pour son rôle dans Clo-Clo. Il est parti en Arctique pour faire le deuil de son meilleur ami.
Benoît Poulevard.
Tout filmé.
Ah non, c'est pas Clo-Clo, c'est Podium.
Ah bah, oui,
je
non, c'est Podium, Benoît Poulevard.
Lui, c'est un autre genre d'aventurier, un aventurier des mots. Polyglotte émérite, il parle plus de 10 langues couramment, dont évidemment l'anglais.
Extremely lily.
Mais c'est surtout dans la langue de Molière qu'il brille, allant même parfois jusqu'à en redessiner les contours, comme la semaine dernière.
Vous avez rajouté des humains?
Si vous rajoutez des mots au dictionnaire, on peut bien rajouter des humains. On est quitte, mon cher Quentin.
Tu voulais dire quoi?
Huer. Ah, et on a non, mais j'explique à Manon qui n'était pas là.
Ah, c'est vrai, vous
étiez malade.
Vous avez raté voilà. Ne pouvait pas huer puisqu'elle n'avait plus de voix à ce moment-là.
Vous avez raté ce néologisme. Quentin, chaque matin,
hurlement et...
vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, les carottes glaciaires y situées ?
Bah, ça ressemble quand même vachement aux calottes polaires. Donc, les gens se sont perdus. On a croisé les skis, si j'ose dire. Le hasard de la vie a mis sur mon chemin des voix qui nous parlent de carottes glaciaires de Paris jusqu'en Savoie. Je vous raconte ça dans la prochaine demi-heure.
T'es allé jusqu'en Savoie pour
Non, les gens sont venus jusqu'à Paris.
Très bien, c'est pratique dans ce sens-là. Vers 16h30, celles et ceux de nos invités, et celles de nos invités ayant été un franc succès, nous jouerons avec les expéditions polaires les plus foireuses de l'histoire. Navires pas adaptés, vêtements trop légers, rations insuffisantes. Qui a oublié de passer au vieux campeur avant de se lancer à l'assaut des pôles ? Réponse dans un Zoom Zoom test spécial. Ils voulaient voir les manchots, ils y ont laissé leur peau. Après 17h, ça c'est un manchot. Je le signale parce que peut-être que tout le monde n'a pas été comme moi sur la banquise, on ne connaît pas le son des manchots. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur l'actu de ce 10 février et on posera la grande question à quand la paix au Proche-Orient. Johan Sfar, qui pour son dernier, sera notre invité pour son dernier roman graphique, il m'impressionne beaucoup parce qu'il est énorme et passionnant. Il a interrogé Palestiniens, Israéliens, Égyptiens et Bédouins. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler. Mais d'abord donc, direction l'Antarctique. Nos invités en reviennent. Élie Sévestre, Mathieu Tordeur, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur la réacclimatation. Comment on revient à la vie urbaine ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé 80 jours à glisser sur des kiteskis au pôle sud ?
Bah en fait, on a les sens complètement anesthésiés en Antarctique pendant 3 mois. On sent rien, on voit que du blanc de la neige, que du bleu du ciel. Donc quand on arrive à la civilisation, on a notre cerveau mais qui est complètement décalqué, quoi. On est complètement retourné. Moi, je me souviens juste la première respiration qu'on a faite en arrivant en Amérique du Sud à la fin de l'expé. Ouais. C'était comme si quelqu'un avait, je sais pas, jeté des vitamines dans l'air, quoi. L'air avait une odeur mais absolument extraordinaire.
Ah ben, extraordinaire dans quel sens ? C'est désagréable ou c'est au contraire c'est...
Au contraire, on sentait de la végétation en fait.
Ah, et ça fait du bien sentir. Oui, la végétation,
c'est... Qu'on n'avait pas senti d'arbres. C'était l'été en Amérique du Sud, les fleurs, les pins, c'était dingue.
Et vous, Mathieu ?
Ouais, c'est l'Antarctique, c'est un univers qui est très stérile et très pauvre pour les sens. Il y a très peu de couleurs. Quand il fait pas beau, c'est un univers qui est très monochrome avec du blanc, du gris. Parfois, il fait beau, donc on a un beau ciel bleu. Mais c'est vrai que des couleurs, on n'en a pas vu beaucoup. Et puis, il fait moins de 0 degré en permanence, donc il n'y a pas d'odeur. Donc, comme le dit Heidi, quand on revient dans le monde réel, c'est vraiment un cocktail de saveurs pour les sens. Donc, le retour fait plaisir. Hein, le retour dans un lit chaud, prendre une douche tous les jours,
c'est
fait aussi
mal,
plaisir. Hein, parce qu'après 3 mois d'expédition en automne, bah, je peux vous dire qu'on n'a pas vu beaucoup la couleur d'une douche et d'un lit.
Vous avez ramené une belle marque de bronzage, en tout cas.
Oui, alors effectivement, on était très couverts. Hein, et puis parfois, voilà, on enlevait nos lunettes de ski, nos masques de ski. Et c'est vrai que j'ai un bronzage un peu particulier. Je suis content qu'on soit à la radio.
Ouais. Oui, mais vous êtes filmé quand même, ne vous inquiétez pas. Lui, ce n'est pas le courage qui lui aurait manqué pour se taper 80 jours de kiteski, c'est la technique. Déjà qu'à chaque vacances d'hiver, à Samoins, où sa femme l'a inscrit au cours découverte du ski de piste senior, il a du mal à skier. Il est serré.
Planté du bâton ne marche pas du tout.
Clairement, le kiteski, vaut mieux pas qu'il essaye. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes bon en ski, Cyril ?
Je ski.
Ah. Très bien.
Non, je suis ça. Je me débrouille.
Ça veut dire bof, ça ?
Non, je me débrouille, franchement.
Vous
débrouillez. Oui. C'est l'essentiel.
Piste noire ?
Oui, mais c'est pas le plus drôle, les pistes noires.
Oh, piste. Ouais.
Non, mais plutôt, c'est pas drôle.
Il est plutôt hors piste, quoi. Voilà.
Fatigant avec mon dos, mon âge, tout ça.
C'est vrai que ça fait beaucoup.
Allez.
Cyril, racontez-nous les carottes glaciaires, d'où ça sort.
Imaginez, vous tenez dans votre main un petit morceau de glace, vous le faites fondre et vous entendez un léger pchit. Ce bruit, c'est de l'air qui s'échappe. Mais attention, pas n'importe quel air. C'est peut-être l'air qu'a respiré un mammouth laineux, ou l'air qui soufflait sur Rome à l'époque de Jules César. C'est ça la magie des carottes glaciaires, de longs tubes de glace situés à 3 km sous la banquise, et que l'on extrait des pôles pour lire le passé.
Et étonnamment, Cyril, à l'origine, ce n'est ni de la recherche scientifique, ni archéologique, mais militaire.
À la fin des années 50, l'armée américaine décide de construire une base secrète sous la glace du Groenland. Déjà le Groenland pour les Américains, cette base s'appelle Camp Century. Les États-Unis racontent que ce camp doit permettre le travail de scientifiques. Il doit en fait surtout servir à planquer 600 missiles nucléaires sous la calotte glaciaire à portée de l'URSS. C'est le projet Iceworn, le ver de glace. Pour y arriver, les militaires développent des technologies de carottage ultra pointues. Alors le projet est avorté, mais la technologie de forage reste. La suite, c'est la grandeur de la France.
Ah.
Nous sommes en 1965. Le glaciologue Claude Lorius est en Antarctique. Pour se détendre, après une journée de forage, Lorius et ses collègues se servent un whisky et et y mettent un glaçon. Mais voilà, ce glaçon n'est pas n'importe quel glaçon. Il laisse échapper des bulles en explosant. Lorius a une intuition. Ces bulles, ça serait de l'atmosphère fossile piégée dans la glace.
J'aurais eu la même intuition.
J'imagine, évidemment. Alors, d'où ça sort les carottes glaciaires? Eh bien, d'une erreur stratégique majeure. On ne met pas de glaçon dans le whisky.
On the rocks.
Non, surtout pas. Mais une erreur qui s'est révélée payante pour l'humanité. Et c'est justement le début de notre histoire.
Merci Cyril. Eddie Céleste, expliquez-nous comment ça marche. La glace piège des gaz de l'atmosphère et les conserve pendant des années, des milliers d'années, c'est ça?
Ouais, c'est extraordinaire. En fait, la glace, par exemple la glace de l'Antarctique, elle se forme d'une façon toute simple. C'est des chutes de neige, année après année, qui vont s'accumuler. Ces couches de neige, elles vont devenir de plus en plus lourdes, elles vont se densifier, se transformer en glace. Quand vous faites un bonhomme de neige ou faites un igloo, vous savez que la neige, c'est assez légère. Ou quand vous partez faire du ski à Samoin, vous savez que la neige est assez légère, elle est pleine d'air. Donc en fait, quand ces couches de neige s'accumulent, au bout d'un moment, l'air n'arrive plus à s'échapper. On se retrouve prise au piège dans ce millefeuille de couches. Et aujourd'hui, en Antarctique, quand on va en profondeur, il y a pratiquement jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace en Antarctique, et bien en fait, plus on va en profondeur, plus on remonte le temps, plus on trouve de ces petites bulles d'air, des petits échantillons d'atmosphère qui peuvent être extrêmement anciens. Aujourd'hui, on cherche quand même des petites bulles d'air qui peuvent avoir plus de 1 voire 2 millions d'années en Antarctique.
2 millions d'années ?
Donc c'est super précieux, ça, pour reconstruire l'histoire de notre planète.
Et ça, c'est à combien ? Il faut creuser à combien pour atteindre 2 millions d'années, pour remonter le temps ?
Alors, il y en a qui sont assez profondes, et parfois la glace fait des schmilblicks un peu bizarres, parfois elle arrive à remonter carrément à la surface, donc c'est très bizarre.
Et comment on arrive à savoir que ça a 1 million, 2 millions d'années?
Ouais, ça c'est une super question. En fait, on a besoin de la comparer avec, parfois on a des pollens, parfois on a des petites poussières qu'on arrive à dater. Ou
c'est
le
par
must,
comparaison.
Le must du must, c'est d'avoir une petite couche de cendre d'une éruption volcanique qu'on arrive à retrouver. Et là, ça nous permet de dater justement ces différentes couches de glace.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Grâce à Jon Snow, on sait ce qu'il y a au nord du mur. Mais grâce à nos invités, la glaciologue Heidi Sevestre et l'explorateur Mathieu Tordeur, on sait désormais un peu mieux ce qu'il y a au sud. Direction l'Antarctique cet après-midi dans Zoom Zoom avec nos invités qui reviennent donc d'une expédition scientifique pour le compte de l'UNESCO. Il faut revenir sur l'expédition elle-même, on a parlé des carottes glaciaires. Vous étiez en kiteski, des skis à voile. Pourquoi ce mode de transport, Mathieu?
On s'est déplacé avec des kites, effectivement. Donc on connaît tous un peu le kitesurf qu'on pratique sur la mer ou sur des lacs. Là, le kiteski, c'est sensiblement la même chose. On a des skis alpins au pied, puis on a des voiles de traction qui nous permettent d'évoluer sur cette grande calotte polaire, pour le coup, qui est l'Antarctique.
Il y a du vent ? Il y a assez de vent ?
Il y a beaucoup de vent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet, avec le vent, de parcourir des distances assez fabuleuses. Il y a des journées, on a fait avec Heidi plus de 200 km, et ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite que si on tractait notre traîneau et notre matériel scientifique à notre propre force.
Mais vous vous êtes entraîné quand même avant ?
Alors,
ça doit être physique.
On peut paraître un peu inconscient et fou, mais on s'est quand même beaucoup entraîné. On s'est entraîné notamment au Groenland, qui est un univers analogue à l'Antarctique. Mais Heidi a appris le kite pour cette expédition, et donc il y a eu une formation qu'on a faite en Norvège, au Groenland, et on connaissait bien les milieux polaires, mais bien sûr, on n'est pas parti en claquant des doigts.
Combien de temps de préparation en tout?
Deux ans à peu près, très, très intense. Ouais.
Et pour revenir sur ce que c'est que l'Antarctique, déjà, à quoi ça ressemble, et la manière dont on en parlait un peu hors antenne, et c'était stupéfiant, vous dites, on est parfois plus loin de toute vie humaine que si on était sur l'ISS, sur la Station Spatiale Internationale.
Bah, c'est gigantesque. C'est un continent qui fait 25 fois la taille de la France, recouvert en grande partie de glace. Et nous, on a surtout évolué à l'intérieur des terres de l'Antarctique. On s'est retrouvés sur des hauts plateaux, parfois au-dessus de 3000 mètres d'altitude, et on était littéralement plus isolé sur une grande partie de l'expédition que les astronautes sur l'ISS.
À quoi ça ressemble quand on est au cœur de l'Antarctique comme ça, le décor, est-ce qu'on peut l'imaginer par des films par exemple qu'on aurait vus?
C'est vraiment... Moi, j'écoutais Interstellar. C'est une autre planète. C'est vrai qu'on évolue sur un endroit, comme disait Mathieu, assez monochrome. On est sur une surface blanche pendant 3 mois. On a un ciel gigantesque. Parce qu'il n'y a aucun obstacle autour de nous. Et c'est vraiment un autre univers complètement. On
Question
est assez déboussolé.
Très importante de notre rédacteur en chef, bon vivant, Cyril Lacalle en régie. Comment on faisait pour la nourriture?
Grande question. Il n'y a évidemment pas de restaurant. restaurant, il n'y a pas d'hôtel.
Pas de bib gourmand, pas de... Eh non, c'est difficile. Alors comment on se nourrit?
Donc on prépare tout ça avant de partir et on mange de la nourriture déshydratée, de la nourriture lyophilisée. En fait, il faut savoir que tout ce qui contient de l'eau va geler instantanément. On est dans un congélateur. On regardait la comparaison. Un congélateur à la maison, c'est moins 18 degrés. Nous, on a eu de nombreuses semaines à moins 35 sans l'effet du vent. Donc ça voulait dire que quand même, on était deux fois plus froid que dans son congélateur.
Vous avez eu froid, vous étiez tellement bien équipé que finalement, ça se gère.
On a eu froid quand même. Après, c'est vrai que la technique, c'est de multiplier les couches, de toujours être actif.
Mais vous dormiez où? Pas dans des tentes quechua quand même?
Non, mais dans des tentes.
Dans des tentes.
Ouais, mais ouais, c'est surtout, tente, j'ai vu qu'il faisait jour tout le long.
En permanence, ouais.
Comment vous faisiez pour dormir? Ça devait être compliqué, j'imagine.
Oui, on se cache les yeux, simplement avec le bonnet ou avec le masque de ski. En fait, on est claqué à la fin de la journée quand on a fait.
On n'a pas de mal à dormir même s'il fait jour.
On s'endort.
Est-ce que vous avez croisé des gens?
Alors, la question que nous posons souvent, c'est est-ce que vous avez vu des animaux? Et les animaux, on n'en a pas vu parce qu'ils sont sur la côte du continent. On va trouver des manchots, des phoques, des baleines, des oiseaux et eux ont besoin de la mer pour se nourrir. Et des humains, on en a croisé, oui, puisqu'au pôle sud géographique, il y a une base scientifique américaine où il y a 170 personnes qui travaillent l'été. C'était l'été pendant qu'on était dans cette expédition. Et donc, on a croisé de la vie humaine là-bas. Et puis, on en a croisé évidemment aussi à notre départ et à notre arrivée.
Il n'y a pas d'autochtones en Antarctique?
Non, il n'y a pas d'autochtones en Antarctique. Les scientifiques, on pourrait presque les considérer comme autochtones. Et c'est vrai que quand on y était, certes, nous, on était deux sur notre mission scientifique, mais il y avait des milliers de scientifiques avec leurs équipes de support qui donnaient le meilleur aussi pour la science.
Quand vous êtes en déplacement comme ça, comment vous faites pour communiquer? Est-ce qu'il y a une radio? Intercom?
En fait, dès le début de l'expé, on réalise que notre casque qui est censé être connecté, notre radio qui est notre backup pour pouvoir se parler, tout est gelé. Rien ne marche. Et donc, on fait des signes avec des moufles. Et en fait, on a du mal à se comprendre, une grande partie de l'expé. Mais c'est super important.
Il n'y a pas une technologie qui, à cette température, peut fonctionner?
Pas de ce qu'on avait, non, à part les signes, et essayer de deviner ce que l'autre est en train de ressentir, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il sourit.
L'écriture, c'était pas possible? Trop froid pour écrire?
Non, ouais, on n'avait pas de quoi faire ça. Ouais.
En fait, au-delà de ça, il faut savoir qu'on est, très très couvert, on est un peu des bibins d'hommes, on a un gros casque, un gros masque, des grosses moufles, et donc écrire, ça aurait été compliqué. Même manipuler la radio avec des moufles, c'est pas simple, donc le mieux, c'est de se faire des signes, et puis de toute façon, quand on kite l'un derrière l'autre, et on n'est pas non plus très proche. Donc quand on faisait des pauses, on posait le kite, et là, on peut se parler.
Et vous, savez-vous à quoi servent les carottes glaciaires? Êtes-vous fin connaisseur des pôles ou bien comme Donald Trump qui s'était mis en scène avec un manchot au Groenland? Confondez-vous encore l'Arctique et l'Antarctique? Quentin, qui ne supporte pas votre inculture géographique, est allé vous éduquer, comme tous les jours.
Je suis devant la grande galerie de l'évolution à Paris. À travers les grandes verrières, on devine des squelettes de dinosaures suspendus qui semblent flotter dans les airs. C'est là que je croise un groupe de retraités en sortie organisée. Deux messieurs se détachent, un peu blagueurs, l'œil taquin, visiblement ravis que je m'intéresse à eux. Ils ont quel âge?
80 ans. 77. Une carotte glaciaire. Une calotte glaciaire.
Ah, c'est pour le...
Vous parlez de la calotte polaire?
Non, moi je parlais des carottes glaciaires. Mais c'est pas la saison, elles sont pas encore sorties, elles sont encore dans la terre.
Vous me faites une blague?
Non. Ben, je sais pas quoi dire d'autre. Hein.
Je sais pas. Ils étaient comment, les mammouths?
Ah, j'en ai pas connu.
Bon, qui aime bien, châtie bien. Mais je ne suis pas avancé du tout dans ce micro-trottoir. C'est le charme aléatoire de l'exercice. Heureusement, parfois, la chance tourne un peu.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom?
Anna Chiara.
Est-ce que vous pouvez me dire votre métier?
Je suis micro-paléontologue.
Et voilà! La chance! Elle attend ses collègues, mais veut bien se prêter au jeu deux minutes en découvrant le sujet du jour de Zoom Zoom Zen.
Ah, une carotte glaciaire. Moi, je travaille sur les carottes marines, des sédiments marins, pour aussi raconter l'histoire du climat du passé. Les carottes glaciaires sont des carottes qui ont été effectuées par exemple dans les calottes polaires. Ce sont des archives incroyablement puissantes pour raconter l'histoire du climat du passé.
Écoutez, je dois partir parce qu'ils m'attendent.
Ils sont eux, paléontologues aussi?
Oui,
je peux leur poser une question?
Oui, bien sûr.
Voilà, dans un micro-trottoir, on appelle ça tomber sur un nid. Et c'est rare, un nid. Chacun son jargon. Pour son collègue, c'est évidemment très instructif, une carotte.
Ça peut être, par exemple, pour ce qui concerne les peuples qui vivaient dans les pays du Nord, savoir s'adapter à des climats extrêmement froids, donc trouver la ressource pour se nourrir. Les Inuits, par exemple, ils se sont adaptés. Ils sont arrivés à un moment dans l'histoire... Dans les régions des polaires, et donc ils se sont adaptés. Sachant que l'homme est d'origine africaine à une période très ancienne. Donc il y a des histoires de migration, donc des histoires d'adaptation, etc.
Finalement, ça résonne un peu avec ce qu'on vit.
L'homme n'est que ça, adaptation, à tous les moments de l'histoire.
Anna rajoute une chose pour conclure, une carotte glaciaire, c'est utile car on peut vraiment aller très très loin dans le temps.
Et on peut les tracer jusqu'au environ un million d'années. Et donc, elle nous montre que des variations climatiques, des périodes plus froides, plus chaudes, il y a eu. Mais elle nous montre aussi que dans les derniers siècles, l'accélération du changement climatique est très, très, très rapide. Et c'est ça qui nous inquiète.
Marie, qui se balade dans le Jardin des Plantes à Paris et à qui je raconte mes rencontres par hasard avec des paléontologues, me fait alors cette confidence.
Je pense que la Terre a beaucoup de choses à nous révéler, mais on la muselle quand même beaucoup.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on fait, on est en train de régresser, quoi. Voilà.
Ça vous attriste ? C'est un truc
qui... Oui, bien sûr. Mais moi, mes générations futures, c'est à eux de jouer. Nous, on a été des enfants gâtés. Hein.
Ma dernière rencontre, c'est ce couple. Martin, Oxane et leur petit Côme, 3 ans, qui préfèrent se cacher contre la doudoune de sa maman. Et on le comprend.
Ah. Bonjour.
Bonjour.
On vient se balader à Paris pour le week-end.
Vous êtes d'où ?
De Savoie, Albertville.
C'est une carotte glaciaire. Moi, ça me fait penser à l'âge de glace.
Et comme je sais très bien faire la voix du paresseux dans l'âge de glace... Eh bien oui, Cécile. Eh bien, une carotte glaciaire, ma chère Oxane, est un cylindre prélevé au cœur de la calotte ou des glaciers, formé par l'accumulation de couches de neige au fil des ans, qui nous amène parfois... Je me suis mis dans une galère.
Il y a un peu Gollum aussi,
à des centaines de milliers d'années. Tu vois ?
Ok, c'est bon. Je vois, ça y est.
Qu'est-ce que...
C'est un petit peu aussi, enfin rien à voir, mais avec les arbres qu'on arrive à dater.
Les cernes des arbres, où on arrive à dater à son âge de l'arbre, à quelle époque il a été planté ou où il a grandi. Donc ça, c'est un peu la même chose avec la glace, on arrive à dater certaines choses, à remonter, à prélever des échantillons de certaines choses qui se passaient à l'époque.
C'est vrai que le lien avec les arbres est évident maintenant quand j'y pense, toutes ces couches qui passent, toutes les couches finalement, et le temps qui passe dans ce bas monde. Je leur parle de ce que m'ont dit ces paléontologues, une fois de plus, le réchauffement s'accélère et en Savoie c'est visible.
Ah, c'est intéressant et flippant en même temps, je trouve. Avec les glaciers, ouais. Ouais, à Chamonix, les glaciers du Mont Blanc, la mer des glaces, ce genre de choses. Ouais. On voit que les glaciers qui reculent. Moi, je suis commercial, je voyage pas mal en Savoie et on voit chaque année que les glaciers sont plus la même tête, quoi.
Ah oui, c'est clairement, là. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis en Savoie. Donc avant, j'étais un petit peu en Haute-Savoie et on voit bien que ça recule.
Ouais. Comment on en parle dans la région ?
C'est un peu comme ça, quoi. La région a vu beaucoup du tourisme, donc ça parle plus du tourisme et de ce qu'ils appellent l'or blanc, donc la neige, qui fait vivre toutes les deux Savoies. C'est impressionnant, donc... Non, c'est pas quelque chose qu'on parle régulièrement en tout cas.
Et au fond, ces carottes glaciaires, ce sont les cartes mémoire de la Terre, des couches, des traces, des millénaires qui passent, et elle, la Terre, se souvient de tout, là où nous, on semble parfois l'avoir un peu oublié.
Merci Quentin et à votre nid de paléontologue.
Et cette très belle imitation.
Et cette imitation merveilleuse de Silence y serait cru. Heidi Sylvestre, Mathieu Tordeur, je me faisais cette réflexion en écoutant le dernier couple, ceux qui vivent en Savoie. Si les glaciers fondent à vue d'œil, si la calotte polaire fond, est-ce que finalement c'est pas simplement notre avenir qu'on met en péril, c'est le passé qui s'efface aussi?
Ouais, complètement. Il y a un projet génial qui est important à mentionner à ce moment-là, je pense, qui s'appelle Ice Memory. Ouais. C'est un projet franco-italien qui va chercher ces fameuses carottes sur les glaciers de montagne du monde qui sont en voie d'extermination. Et là, justement, ils viennent d'emmener certaines de ces carottes de glaciers de montagne en Antarctique pour pouvoir les préserver.
Ah oui,
parce que ces carottes, ces glaciers, ce sont les meilleures archives du climat. Ouais. Ça fait partie. C'est notre histoire, en fait, hein, que ces glaces ont enregistrées.
Mais ils les marquent, ils mettent leur géolocalisation pour les retrouver, quand même.
Ouais, dans quel sens elles sont, à quelle profondeur elles étaient. Ouais, c'est vraiment un projet extraordinaire et ils méritent qu'on leur fasse un petit coup de projecteur.
Mais c'est fou ces carottes, parce qu'il existe des carottes marines, c'est ce que disait Anna. C'est le même principe.
Oui, ce sont
qu'est-ce qu'on retrouve dans les sédiments?
Oui, alors on trouve notamment des diatomées, on trouve des tout petits animaux en fait qui sont faits enterrer dans ces différentes couches de sédiments. Et suivant le type d'espèce qu'on y trouve, ça nous donne une certaine information sur le climat dans lequel évoluaient ces espèces. Donc c'est très complémentaire, les carottes de glace, les carottes de sédiments, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé avant.
Est-ce que seul l'humain peut faire ce travail? Est-ce que on peut pas, on pense à, je sais pas, utiliser des robots maintenant ou des drones, ou vraiment non, c'est que vous?
On verra ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est sûr, c'est que sur notre expédition pour revenir notre traversée en kiteski, l'Antarctique est déjà observée par des satellites plus que jamais, et en revanche, la donnée qu'on a collectée avec Heidi sur le terrain, il fallait être sur le terrain pour la collecter. Il y a des radars qui ont été passés par voie aérienne, mais rien ne vaut en fait la donnée données qu'on peut collecter sur place. Donc certainement que des machines pourront remplacer le travail humain. En tout cas, nous, on a essayé de collecter sur place avec nos kites de données.
Mathieu Tordeur, je vous ai rapidement présenté comme explorateur. C'est un peu rapide. Vous êtes aussi le fondateur de l'association 90 degrés Sud qui œuvre aux côtés de la communauté scientifique pour récolter justement des données et éveiller les consciences. En fait, vous avez réussi à associer votre passion de l'exploration à un intérêt scientifique. C'est ça votre projet
de vie ? C'est un peu ça. Et le parti pris, c'est d'essayer de relier, si vous voulez, l'aventure, la science, la pédagogie, la communication. On partage une conviction avec Heidi, c'est qu'on ne sensibilise jamais aussi bien que par l'émotion et on ne sensibilise jamais aussi bien sur la science qu'en l'incarnant. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Heidi, avec cette expédition, c'est de rendre cette science accessible au grand public, puisqu'on pouvait communiquer pendant notre expédition, mais aussi auprès de la jeunesse. Et avec Heidi, on a mené un programme pédagogique avec une association qui s'appelle Témoins Polaires. Et on a 300 000 jeunes qui nous ont suivis pas à pas. Pendant l'expédition, on leur envoyait des photos, des vidéos, on répondait à leurs questions, il y avait plein de quiz. Et donc, ça leur permettait, si vous voulez, de s'éveiller sur ces sujets de manière ludique, de manière attractive. Et je crois que ce sujet du dérèglement climatique, c'est un sujet évidemment très angoissant. On constate beaucoup d'éco-anxiété. Le faire de cette manière-là, avec une grande expédition, avec une belle histoire, je crois que c'est une porte d'entrée assez séduisante. Ouais.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Je l'ai dit en préambule, je le rappelle ici, Heidi et Mathieu, que pèsent 4000 km en kiteski au pôle sud, quand vous avez face à vous une équipe qui a parcouru 140 km en TER sans wagon-bar pour aller à Rouen. Et il en a fallu du courage à Manon pour surmonter sa peur, bien compréhensible, puisque le seul spécimen normand qu'elle connaissait, c'était Quentin, et de par sa taille, elle en avait déduit les carences alimentaires, certainement liées à la terrible famine qui sévit là-bas. Il paraît qu'ils se nourrissent exclusivement de pissenlits et d'escargots crus. C'est pour ça qu'ils sont si petits, me disait-elle tremblante sur le quai de la gare. Finalement, elle en est revenue de Rouen, sans voix peut-être, mais vivante. Contrairement aux explorateurs auxquels sera consacré ce quiz, jouons au Zoom Zoom Test. Tout d'abord, vous connaissez l'adage, ne jamais prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. Un adage qui évidemment ne s'applique pas aux membres de l'équipe de Zoom Zoom Zen, mais quand même, je vous pose la question préliminaire. L'Antarctique, c'est très beau mais très froid? C'est le pôle Nord ou c'est le pôle Sud?
A et C.
A et C. C, tout court.
Bonne réponse de Quentin, c'est très beau mais c'est très froid. Bonne réponse Quentin, bien joué, je vous l'accorde. C'est important de savoir de quoi on parle. Alors attention, ça va devenir plus dur. Justement, restons en Antarctique, on y est si bien, à la condition de ne pas enlever ses gants, en compagnie du Norvégien Roald Amundsen, qui sera le premier explorateur à planter le drapeau au pôle Sud. Pas une mince affaire, d'autant que ces hommes pensaient en fait qu'ils allaient au pôle Nord. Il a fallu bouffer du manchot cru.
Oh là.
Où les Anglais...
Plusieurs réponses ?
Oui, peut-être. Et les Anglais ont failli lui griller la priorité.
A
et B.
Je vous donne l'opportunité.
Les trois.
Oh oui, Quentin, bravo. Les trois. Comme Manon a déjà pu le constater dans les saunas libertins d'Oslo, le Norvégien est extrêmement résistant. Nous sommes en 1911, quand le marin Roald Amundsen quitte les côtes norvégiennes pour rejoindre le pôle Nord. Mais voilà, il apprend juste avant de partir que l'Américain Perry est en passe d'atteindre l'objectif. Il décide donc secrètement de changer d'objectif et de mettre le cap vers le pôle Sud pour ne pas effrayer le reste de l'équipage qui pourrait se dire « Tiens, on a signé pour le pôle Nord, le pôle Sud, c'est quand même vachement plus loin. » Il décide tout simplement de ne rien dire. Ce n'est qu'à la première escale à Madère, après 3 semaines de navigation, qu'il leur révélera le poteau rose. À la clé, l'exploit, Amundsen est le premier à rallier le pôle Sud, grillant la priorité au roast beef, moins bien préparé, et au prix de pas mal d'efforts, dont effectivement le tartare de pingouin. Décidément, à jamais les derniers ces Anglais, puisque 30 ans avant la naissance d'Amundsen, John Franklin, un officier de la Navy, va tenter sa chance en Arctique. Et c'est bien la preuve, vous direz Cora, en caressant son pompon, qu'on ne s'improvise pas officier de marine. Il faut dire que le John Franklin en question est un sacré loser. Son aventure se soldera d'ailleurs par une hécatombe avec le décès de 128 membres de l'expédition, un beau ratio de 100% de mortalité. Selon vous, quelles raisons peut-on avancer pour expliquer un tel fiasco? La technologie qui n'était pas au point? L'arrogance typique des Anglais qu'on connaît? Ou la connerie personnelle du capitaine?
C'est
les trois?
Oh Quentin, c'est un festival, oui! Même un week-end dans le Perche aurait pu virer au drame avec un champion de l'orga comme John Franklin. Je résume, déjà techniquement les deux bateaux étaient beaucoup trop lourds et avec un trop grand tirant d'eau pour pouvoir se faufiler dans les bras de mer encombrés de glace, donc ils sont restés pris justement dans la banquise. Ensuite, les Anglais ont préféré garder leurs fringues en laine qui ne séchaient jamais plutôt que de prendre des peaux de bêtes des Inuits pas assez chics à leur goût. Puis quand ils ont dû abandonner les navires pris dans les glaces, ils se sont épuisés à tirer des chaloupes sur la glace pleines d'argenterie et de bouquins totalement inutiles à leur survie. Et enfin, ils ont contracté le botulisme car les boîtes de conserve, invention récente, était en plomb, d'où fatigue, paranoïa et affaiblissement physique général. Ah, un joyeux calvaire qui aura quand même duré 3 hivers pour les plus costauds qui, d'après les corps et les vestiges retrouvés dans les années 80, ont réussi à survivre comment, d'après vous, pendant ces 3 années de galère?
En
devenant esclave des Inuits, astucieux. en se bouffant entre eux, savoureux, ou en chevauchant des phoques géants jusqu'en Angleterre pour finalement mourir à la maison.
Bah B.
Bouleversant.
Je pense B.
A et B.
En devenant esclave des Inuits. C'est audacieux, mais c'est une bonne réponse de Manon Marienne. Oh, réponse B.
Ils se sont bouffés.
À table, les naufragés. Comme le Norvégien, l'Anglais est résilient. Les rares marins de l'expédition Franklin ayant survécu au ravage du botulisme ont réussi à aller encore plus au sud. Les eaux retrouvées portant des traces de cannibalisme, il est fort possible que les brunchs sur la banquise aient été plus protéinés que prévu.
En même temps, pas le choix, pas le choix.
Hein. Oui, c'est... Hein.
On sait ce qui se passerait, on sait ce qui se passerait, en tout cas.
On galère. Après, ils mangent pas très bien en général, les Anglais.
Oui, c'est vrai que...
Ça les a pas beaucoup changés. Voilà. Un peu de sauce à la menthe et c'est bon.
Les haricots,
enfin, bon. On termine avec une belle histoire. Les protagonistes ont encore de sacrés branquignoles, mais qu'importe. Je vous présente l'expédition Endurance en 1914, encore un échec britannique, avec 28 naufragés en survie sur la banquise pendant 22 mois, après que le bateau fut pris et broyé par les glaces. D'après vous, quelle scène émouvante raconte Ernest Shackleton, le chef d'expédition, lorsque l'Endurance céda sous la pression de la banquise? Il dit qu'un étrange objet venu de l'espace en forme de soucoupe volante est resté en stationnement au-dessus d'eux. Une aurore boréale est apparue à ce moment-là, où une bande de manchots s'est mise à chanter du gospel.
Ah, ah.
Je vous donne l'opportunité d'une réponse. Eh bien, les amis, c'était la réponse C.
Quoi ?
Non. C'était la réponse C. Je vous lis le texte.
Vous avez mis un bout de manchot tout à l'heure.
Par une singulière circonstance, 8 manchots empereurs, sortant d'une fissure de la glace à 100 mètres de là, apparurent soudain au moment où la pression était à son maximum. Ils s'avancèrent un peu, s'arrêtèrent et poussèrent quelques cris extraordinaires et sinistres qui résonnèrent comme un chant funèbre. Aucun de nous n'avait jamais entendu les manchots chanter ainsi. L'effet était saisissant. Comme quoi, on peut être un loser et avoir l'oreille musicale. Suivez mon regard. Victoire.
Cette chute, c'est dommage, vous l'avez bien préparée, mais...
Non, mais ça peut être un loser dans la globalité,
dans la globalité de votre œuvre. Voilà.
Ouais, je me sens pas concerné.
Une victoire ne rachète pas tout. Ils ont traversé l'Antarctique sur 4000 km en 80 jours. La glaciologue Heidi Sévestre et l'explorateur Mathieu Torder sont nos invités cet après-midi. On va passer à la partie purement scientifique de l'expédition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un radar à pénétration de sol que vous avez utilisé?
C'est un instrument qui nous permet de scanner les glaces. Hein, de regarder ce qu'on a sous nos pieds, ça envoie des ondes,
qu'on voit
un petit peu comme un sonar, on voit les différentes couches de glace, et surtout on voit ce qu'on a sous la glace. C'est très intéressant
alors
pour
qu'est-ce
nous.
Qu'est-ce qu'on a sous la glace?
Bah, on a justement des montagnes, on peut avoir des lacs, on a un continent, on a le continent Antarctique, et nous ce qu'on a essayé de faire avec Mathieu pendant l'expédition, c'était de regarder justement ces glaces anciennes, de mesurer l'épaisseur de la glace tout au long du chemin sur ces 4000 km.
Et qu'est-ce que ça raconte?
Alors déjà, c'est des mesures très importantes parce qu'on a besoin de savoir l'épaisseur de la glace pour calculer quelle est la quantité de glace qu'il y a en Antarctique. En fait, c'est super important parce que quand l'Antarctique perd sa glace, ça participe à l'élévation du niveau des mers. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais si tout l'Antarctique perdait sa glace, de combien le niveau des océans il pourrait monter?
58 mètres.
Ah là là, mais Mathieu Noël,
vous êtes préparé.
Vous êtes préparé.
J'ai une résidence de vacances et j'ai calculé que j'étais à au-dessus de 58 mètres.
C'est
uniquement par intérêt personnel.
Bah, c'est bien calculé. Donc c'est important de comprendre, de mesurer l'épaisseur de la glace en Antarctique.
Et c'est 4 km, vous le disiez tout à l'heure.
Par endroit, ouais.
Oui, c'est ça, sous nos pieds. Vous vouliez aller trouver des couches de glace vieilles de 130 000 ans. Alors, est-ce que vous avez réussi et qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, on n'a pas les résultats encore. Hein. Là, c'est des scientifiques britanniques, justement, qui vont analyser ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller chercher ces glaces qui sont entre 2 et 3 km de profondeur parce que, comme on l'a dit avec les carottes de glace, elles sont anciennes. Donc, elles ont enregistré ce qui s'est passé il y a 130 000 ans. Et 130 000 ans, pourquoi? C'est une période très intéressante. Naturellement, la Terre avait vécu une augmentation de température qu'on risque d'avoir, nous, d'ici la fin du siècle, l'équivalent de plus 3 degrés. Donc, on a besoin de savoir ces glaces il y a 130 000 ans, comment elles ont réagi à ça. Est-ce qu'une partie de l'Antarctique s'est effondrée ou pas? Comme ça, une fois qu'on aura ces informations, ça nous permettra de nous préparer à beaucoup d'élévations du niveau des mers ou pas.
Mathieu, une question pour vous, le pur explorateur. Est-ce que quand on sait qu'il y a des lacs souterrains, parce qu'avec les radars, on voit ce qu'il y a, mais est-ce que vous, ça ne vous donne pas envie d'y aller pour explorer ces endroits qui doivent être extraordinaires? Est-ce que c'est possible techniquement?
Ils sont très profonds, ces lacs. Il y en a notamment un qui s'appelle le lac Vostok, qui est en dessous donc, de la station scientifique russe qui s'appelle Vostok. Et on sait que ce lac sous-glaciaire, il fait la taille de la Corse. Donc c'est gigantesque et il est très profond. Et nous, on n'a pas pu y accéder. On était d'ailleurs assez loin de Vostok, mais c'est vrai que c'est fascinant.
Mais il y a des gens qui sont allés déjà?
Alors, je ne suis pas à ma connaissance. Ils ont réussi à aller jusqu'à ce lac sous-glaciaire, mais c'est de l'exploration pure. Quoi. On ne sait pas exactement est-ce qu'il y a de la vie, est-ce qu'il y a des micro-organismes, et ça c'est vraiment sous nos pieds quand on est en Antarctique.
C'est Manon. Quoi les effets du dérèglement climatique en Antarctique? Je suppose que vous avez vu des choses. non, Heidi.
Alors, pendant l'expédition, on n'a pas vécu d'énormes vagues de chaleur, de trucs complètement anormaux. Mais aujourd'hui, ouais, l'Antarctique perd déjà des centaines de milliards de tonnes de glace dans les océans chaque année. Quoi. C'est à peu près 150 milliards de tonnes. Donc, c'est beaucoup d'icebergs qui se décrochent de l'Antarctique, qui se jettent dans l'eau. Tout ça, ça participe à l'élévation du niveau des mers.
L'Antarctique d'il y a 10 ans n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, par exemple.
Ouais, c'est en train d'évoluer très vite. Ouais. Et l'Antarctique se réchauffe à peu près deux fois plus vite que la moyenne planétaire. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
Quentin.
Juste une référence cinématographique qui n'est pas glorieuse, mais dans Le Jour d'après. Il y a
ton film préféré.
Non, c'est 2012.
Ah, c'est 2012.
Mais c'est la même chose.
C'est le même réel.
Un jour d'après, on voit qu'il plante aussi, il va chercher des carottes. C'est de ça qu'on parle ou c'est autre chose? Il prélève
la
glace.
Ah ouais.
Oh, d'accord.
Là, on a des gens qui te parlent d'Interstellar, le film quand même de référence.
Ouais, que j'ai vu aussi.
Oui, d'accord, mais que j'ai vraiment apprécié, bizarrement. C'est ça qui est vraiment étonnant. J'ai vu qu'une base franco-italienne va conserver les carottes glaciaires en Antarctique. Comment ça va se passer? Ils vont conserver? Quand est-ce qu'on va avoir les résultats?
C'est ce fameux projet Ice Memory.
Ah non, c'est ça.
Franchement, c'est génial qu'ils arrivent à les sauvegarder. Quelque chose que j'aurais dû rajouter, c'est pourquoi on va stocker ces carottes de glace en Antarctique? Pour les préserver pour les générations futures. En fait, ces carottes de glace, ils en analysent une partie avec les instruments que l'on a aujourd'hui, avec la technologie de 2026.
Et on imagine qu'avec les instruments de demain, on pourra voir d'autres choses.
C'est exactement ça.
Et ces carottes de glace, d'ailleurs, viennent d'Asie centrale, tout droit, vers la base de Concordia. Et donc, c'est une prouesse scientifique et logistique et technique phénoménale d'amener ces carottes d'Asie centrale jusqu'au cœur de l'Antarctique à Concordia. Donc, on a beaucoup d'admiration pour le travail des scientifiques.
Mathieu, prochaine aventure?
Là, pour le moment, moi, je me contente de manger le plus possible, de passer le plus de temps dans mon lit. Non, mais il y aura d'autres aventures. Pour le moment, on va prendre le temps de la raconter auprès des jeunes. On travaille sur un film documentaire aussi avec Heidi.
Vous êtes filmé là-bas?
Oui, beaucoup. Ouais. Mais on a un caméraman qui nous a accompagnés au début, au départ et à l'arrivée. Donc on a hâte de pouvoir partager ça sous la forme d'un documentaire.
Hâte de découvrir votre style en kiteski. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un documentaire aujourd'hui, il s'appelle « D'un monde à l'autre ». Il est sorti de façon assez discrète l'année dernière, alors qu'il est pourtant réalisé par un acteur que l'on connaît bien, Jérémy Régnier. Il s'agit de son premier film en tant que réalisateur, un documentaire né après un événement qui a marqué la vie de l'acteur, la mort de son meilleur ami Gaspard Huliel, décédé en janvier 2019 dans un accident de ski, on s'en rappelle. Les deux hommes s'étaient rencontrés sur le film « Saint-Laurent » de Bertrand Bonello et entretenaient depuis une relation amicale. Après ce décès, Jérémy Régnier traverse donc une période de dépression, il s'éloigne du cinéma, il vit replié sur lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Loury Lag, un explorateur polaire qui lui propose de l'accompagner lors d'une expédition en Arctique. Le documentaire raconte ce voyage. Alors évidemment, le tournage se déroule dans des conditions extrêmes, c'est un peu Kaizen de Inox Tag mais pour les adultes, car le film n'a pas vocation à être un documentaire centré sur l'exploit et le dépassement de soi. C'est pas une performance physique, mais c'est un voyage sur ce que traverse Jérémy Régnier sur le plan intime. L'acteur explique avoir tout de même pleinement mesuré les risques de l'expédition. Avant le départ, Loury Lag a tenu à rencontrer sa famille pour leur exposer les dangers du voyage. L'explorateur dit notamment qu'il y a une probabilité de 50% de ne pas revenir.
Oui, quand même.
Malgré tout ça, les proches de l'acteur lui apportent leur soutien. Sur place, évidemment, Jérémy Régnier dit avoir été confronté de manière très concrète à l'ampleur des risques qu'on lui avait annoncés. Loury Lag emmène Jérémy Régnier dans une traversée de la banquise en autonomie. Donc, il marche à pied, il traîne des traîneaux chargés de matériel, ils installent des camps et surtout, ils doivent s'adapter sans arrêt à des conditions climatiques extrêmes. D'un monde à l'autre suit donc cette expédition et s'accompagne d'une voix off enregistrée par Jérémy Régnier sous forme de notes personnelles. Il y évoque Gaspard Huliel, son ami disparu, son incapacité à faire son deuil et le fait qu'il est parti pour tenter de lui dire au revoir. D'ailleurs, le titre d'un monde à l'autre renvoie à ce passage entre un avant et un après sa disparition.
Merci Manon. Heidi Sévestre, Mathieu Tordeur, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché qu'on se dépasse, qu'on se découvre peut-être surtout dans un environnement aussi hostile?
On n'a pas le choix. C'est l'Antarctique qui décide tous les jours. Nous, on ne fait que s'adapter finalement à ce que l'Antarctique nous met en pleine face. Mais oui, évidemment, et surtout quand on est une petite équipe de deux personnes, c'est un confinement, forcé de 80 jours.
Pardon, mais vous étiez amis avant, parce qu'il faut vraiment bien s'entendre.
Oui,
pour être... D'accord,
s'entendre.
Vous êtes amis de longue date, d'accord.
Oui, absolument. Et puis on
ne peut pas partir
aussi
découvrir une personne, quoi. Ça peut se passer.
On ne serait jamais parti sans se connaître sur le terrain, et c'est pour ça qu'on s'est entraîné au Groenland. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer les conditions. Hein. Pendant 80 jours, on était accroupis sous une tente, à nous faire à manger sur un petit réchaud, à faire fondre de la glace et de la neige, à dormir sur un matelas de sol. Voilà, dans des conditions parfois qui chutaient jusqu'à moins 30 degrés sous la tente. Quoi. Donc c'est sûr que voilà, il faut.
Manon a eu un frisson rien qu'à l'évocation des moins 30 degrés sous la tente.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Son nom est cité 1289 fois dans les fameux Epstein Files. Ce week-end, un nouvel enregistrement particulièrement compromettant révèle sa proximité avec Jack Lang, qui visiblement l'apprécie beaucoup.
Ah, ce Pierre Courade, quel bel homme. Non, je ne dirais pas que c'est un ami, c'est comme Jeffrey, c'est un bel homme, mais ce n'est pas un ami.
Bien sûr que non. Pierre Courade, vous avez le droit de garder le silence. Je vous conseille d'ailleurs de ne parler qu'en présence de votre avocat. Sauf évidemment pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur les carottes glaciaires en une minute chrono, mon cher Pierre.
Si on ne trouve pas le nom de Quentin Lui dans les Epstein Files, c'est que Jeffrey le surnommait non pas la bûche, mais la carotte glaciaire.
C'est d'ailleurs super, bah super, oui.
Oui, bah, c'est d'ailleurs vous, hein, Quentin, hein, qui avez eu l'idée de cette émission aujourd'hui. Les carottes glaciaires, ce sont de petits blocs de glace que l'on ressort de forage dans la banquise ou dans la calotte polaire, suivant la profondeur à laquelle elles ont été sorties. On remonte le temps. En effet, la glace piège le gaz existant au moment de sa formation. Plus les couches de neige s'accumulent, plus on recule dans la chronologie de l'histoire de notre planète. C'est une vraie bibliothèque de notre climat que l'on peut ainsi constituer. Ce sera d'ailleurs le cas grâce à des scientifiques franco-italiens. C'est ce que sont venus nous expliquer nos invités, la glaciologue Heidi Sevestre et l'explorateur Mathieu Torder. Ils sont partis tous les deux à l'aventure pendant 80 jours sous l'égide de l'UNESCO. 4000 km parcourus en kiteski, des skis à voile, à travers l'immensité de l'Antarctique. Ils nous ont expliqué que dans cet univers stérile, on pouvait remonter jusqu'à 1 à 2 millions d'années. Plus on observait la glace en profondeur, il peut y en avoir 4 km accumulés sous la surface. On peut même y trouver des lacs, grands comme la Corse. Mais pour dater la glace, l'idéal, c'est de trouver des pollens, des poussières ou mieux encore, des cendres volcaniques. Avant de dénicher évidemment le Graal, c'est encore plus rare. Une imitation réussie de Quentin Lui.
Oh, vous êtes méchant, Pierre. Vous êtes méchant. Elles sont belles, les imitations de Quentin. Elles sont très réussies. Merci. Et Pierre, je ne vous ai pas demandé, Heidi et Mathieu, il y a eu un moment de galère, il y a eu un moment où vous avez eu peur.
Il y a un moment où on s'est perdu avec Heidi. On a vécu un phénomène assez habituel en Antarctique qui était un whiteout, donc comme un brouillard. Ouais. Et au moment, on ne se voit plus. Heureusement, on s'est retrouvé parce qu'on porte chacun des GPS et on a pu s'envoyer un petit message. Et...
Ah, mais sans la technologie, vous vous étiez perdu.
Ouais, ça aurait pas été simple. Et puis, je dois dire qu'Heidi avait les deux tentes, la tente principale et la tente de secours. Donc,
vraiment la retrouver.
Donc moi, j'étais pas au mieux.
Vous frissonnez et c'est bien normal. Sortez les polaires quechua. Voici venu celui qu'on surnomme le vent frais de l'émission. C'est Guigui Pop.
Oui! Salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guigui, double Guigui, puis Guigui. Quand je dis Guigui, vous dites Guigui, ok, Guigui.
Guigui.
Guigui. Comment je m'appelle?
Guigui.
Bonjour Heidi, bonjour Mathieu. Quel plaisir de recevoir des collègues, des aventuriers comme moi, des baroudeurs, parce que Heidi, vous avez mené des expéditions au Groenland et en Antarctique. Et Mathieu, vous avez parcouru plus de 100 pays différents. Un palmarès impressionnant qui me fait dire que quand vous devez voir tous les bobos avec des vêtements North Face et des chaussures Salomon pour fendre le bitume et faire des stories de la neige, vous devez doucement rigoler. Parce que la mode, c'est de s'habiller comme vous pour aller chercher un matcha. Oh bah, quelle aventure! Ils sont ridicules! Je le sais parce que j'en fais partie. Donc. Miam miam, le matcha. Voilà. Mathieu, parmi toutes vos expéditions, vous avez même rallié le pôle sud en solitaire. Et ça nous fait un point commun parce qu'il y a 15 ans maintenant, pour ma part, j'ai rallié Pôle emploi en solitaire. Ah bah, c'est moins isolé, mais l'accueil est parfois tout aussi glacial. Croyez-en mon expérience. Ah bah, il a pas tous ses papelards, l'intermittent! Et non! Enfin bon, assez parlé de moi, je suis pas là pour me la péter, vous savez. L'homme tronc ne montre jamais de quel bois il se chauffe. Oh. Ah. Allez, j'espère qu'avec cette intro, j'ai brisé la glace. Pas vraiment, merci. Allez, on enchaîne. J'ai bien lu le document de présentation sur vous avant l'émission et encore plus étonnant, vous avez relié le pôle sud avec uniquement une carotte et une glacière, si j'ai bien compris. Mais quelle idée! Je plaisante, je suis complètement con. Vous savez, je sais, quand on me voit comme ça, on se demande si j'ai pas mangé un lacet, mais tout de même. Non. Évidemment, vous êtes parti sur la calotte glaciaire pour prélever une carotte glaciaire. Alors, carotte et calotte sont deux paronymes qui ne veulent pas du tout dire la même chose, au même titre que la bisque du Touquet et la bistouquette. Voilà. Il convient de ne pas se tromper pour éviter toute déconvenue. T'as déjà goûté ma bisque du Touquet? Faut pas fourcher. Ah oui, sinon ça peut créer un fâcheux quiproquo. En parlant de quiproquo et de pôle et de récits d'aventure, laissez-moi vous conter une anecdote.
Non.
La première fois que je me suis inscrit chez Pôle emploi, c'est parce que j'étais vendeur de bonbons à mi-temps et ma boutique a fermé pour construire à la place un H&M. J'ai été reçu chez Pôle emploi par une dame qui m'a dit « Vous êtes là pourquoi ?» J'ai répondu « J'étais vendeur de bonbons à mi-temps, mais ma boutique a fermé et à la place, ils vont construire un H&M. » Elle a répondu « Un H&M ? Ah bah on sait à qui vont les donner ?» Oh là là ! J'ai répondu « Globalement aux férus de mode ?» Elle a dit « Non, non, ma belle-sœur, elle vit en HLM et sur le palier d'en face, ils vivent à 15 là-dedans. Haha, et c'est que des allocs. Oh là là ! Elle avait visiblement pris la mauvaise sortie sans mettre le clignot. Je lui ai dit « Eh non, un H&M, la boutique de vêtements !» Elle a fait « Ah, un H&M !» Enfin bon, le problème est le même. « Mais non, grande conne ! Il n'y avait pas de problème à la base !» Voilà. Alors, ce qui est bien avec votre job, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par la case Pôle emploi. Votre job, c'est de partir. Ciao tutti ! Quelle chance ! Ce qui doit être terrible, en revanche, dans votre métier, ce n'est pas de mettre le popotin dans la neige pour rendre son dû à Mère Nature. Ceci dit, quand le repas, c'est 70 grammes d'avoine et 14 grammes de raisins secs, on ne doit pas laisser grand-chose d'autre que des Maltesers dans la poudreuse. Non, ce qui doit être terrible, c'est qu'après avoir passé... Pardon. Ce qui doit être terrible, c'est qu'après avoir passé 80 jours seul, loin du monde, tranquille, dans les plus beaux paysages de la planète, il faut revenir et retrouver les siens. En plus, Mathieu, vous venez de Rouen ! Oh là 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 ! C'est peut-être de là que vient votre vocation de vous barrer à tout prix. Je plaisante, j'adore Rouen, c'est magnifique. Et bizarrement, c'est aussi la ville qui remplit le moins sur ma tournée. Ce qui explique pourquoi je viens de dire que c'est magnifique alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Voilà. Hein, vous l'avez compris, contrairement à vous, il me reste encore tant d'endroits à explorer.
Merci beaucoup, mon cher Guigui. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom, évidemment, bientôt à Rouen. Allez-y, réservez. Merci à Heidi Sévestre et Mathieu Tordeur de nous avoir raconté cette folle expédition en Antarctique. J'espère pour vous que personne ne vous dira un jour cruellement, c'était même pas l'Antarctique, c'était juste une patinoire dans le Val d'Oise, comme ma maman l'a fait pour mon expédition en Laponie. Zoom, zoom, zen.